bonjour à tous et bienvenue dans les Causeries de la Rade, épisode 44. Un épisode qui sent bon le printemps. Comme à son habitude, tout le monde retrouve des couleurs à cette période de l'année. Plus de 100 points marqués et 10 points au classement en 2 matchs. Et pourtant dimanche, ils étaient peu nombreux, ceux qui auraient parié sur une victoire avec bonus à Anoeta. Après toutes les purges qu'on s'est tapées au cœur de l'hiver. Et pour commenter cette nouvelle dynamique aujourd'hui, je serai accompagné de Gérald, de Oli et de Olivier. Salut l'équipe.
Salut à
tout le monde.
Bonsoir.
Et au sommaire de cet épisode, on va débriefer bien évidemment la victoire contre Bayonne 10 à 46. On parlera du prochain adversaire Toulouse que l'on recevra dans 3 semaines au Vélodrome. Dans les news de la semaine, on évoquera la confirmation des signatures des deux Anglais, Ludlam et Sinclair. On enchaînera avec le gros dossier de la semaine, la rencontre entre le maître Mignoni et les supporters qui a eu lieu ce mardi au campus du RCT. On reviendra en détail sur tout ce qui s'y est dit et on terminera avec le point sur les catégories jeunes. Bref, voilà, un programme bien chargé. Mais avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu passer l'annonce sur les réseaux sociaux, ce jeudi 4 avril, épisode spécial, les Causeries de la Rade reçoivent Pierre Mignoni dans une interview vérité où tous les sujets seront abordés sans tabou. Vous l'attendiez, le coach du RCT a accepté l'invitation. Notez bien dans vos agendas ce jeudi 4 avril, épisode spécial à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà qui est dit. Bon,
ça va être incroyable.
C'est incroyable, hein, c'est fou ça.
Voilà qui est dit. Ça va être terrible.
Ça va être terrible. Bon, bah nous en attendant, petit retour aux affaires quotidiennes et la victoire bonifiée du RCT à Anoeta 10 à 46. Une victoire avec la manière qui fait plaisir hein, et qui lance une dynamique positive au meilleur des moments. Toi, Gérald. La veille du match, est-ce que tu pensais le RCT capable de faire une prestation aussi aboutie à l'extérieur, franchement ?
Alors, la veille du match, non. mais en fait, ce n'est pas une question de savoir si on est capable de le faire ou pas. À partir dans ce top 14, on sait que de toute façon, toutes les équipes sont capables de battre tout le monde, à part peut-être le Stade Toulousain, qui lui, s'ils ont décidé de ne pas perdre un match, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le perdre. Mais parce qu'ils sont très au-dessus. Les autres, tout peut se jouer. Nous, on l'avait dit la semaine dernière. Hein, donc, moi, je ne voyais pas gagner. En tout cas, on ne pouvait pas partir avec une confiance absolue dans ce match. Ce n'est pas parce qu'on avait mis 50 contre le MHR qu'on était devenu tout à coup irrésistible. Alors, visiblement, on est tout à coup devenu quand même un petit peu irrésistible. Merci. Parce qu'aller gagner ce match là-bas avec 40 points, le point de bonus offensif, la maîtrise qu'on a eue pendant tout le match, cette défense, enfin tout a été tellement maîtrisé, abouti, que ça en devient même assez étonnant et même surprenant de voir l'écart qu'il y a en si peu de temps entre les prestations qu'on a eues contre Castres, Pau et tous ces matchs-là, là, et ce qu'on a vu hier soir.
Alors, en 3 semaines, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette équipe dure. C'était Oli, toi, t'as été surpris ou pas ?
Carrément. Enfin, comme beaucoup de monde, hein, donc on l'espère tous la victoire. Mais là, on a pris 5 points, on en a mis 46. Alors, c'est incroyable. Je voyais pas l'équipe, comme t'as dit Gérald, je voyais pas l'équipe capable de jouer avec autant de justesse après tout ce qu'on a vu. On n'a pas eu de trou d'air pendant ce match, à aucun moment, à part peut-être quand Bayonne marque son essai, mais ça, c'est le jeu. À aucun moment on a baissé de régime, on a toujours été très tranchant en attaque, hyper présent en défense, et du début à la fin. Ouais, moi, je me faisais un peu de soucis au retour des vestiaires, mais dès que j'ai vu Gabin Villiers défendre, je me suis dit, c'est bon, c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver, on a gagné.
Ah, c'est clair que lui, quand il est à 100%, putain, il ne fait pas les mêmes matchs. Hein. C'est le retour de Villiers au top, c'est quand même... une super nouvelle en vue du sprint final vers les phases finales. Olivier, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais...
Si les joueurs commencent à se réveiller et pourquoi pas retrouver leur meilleur niveau, je dirais pourquoi pas aller en phase finale et pourquoi pas aller en finale. Mais ça, ça tout...
Ça y est, 100 balles. Lui, c'est le tout. Et
ça, on
va de la relégation à la finale.
Après, le jeu qu'on a vu sur ce match-là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a vu récemment dans les autres matchs, etc. On s'est réveillé à Montpellier. Là, on se réveille là aussi. En plus, on gagne à l'extérieur à moitié domicile pour Bayonne. Donc, je pense que ça pourrait relever pas mal de choses.
Ah mais c'est bon, c'est bon pour le moral, ce genre de match, en plus dans des grands stades et tout. Ça, pour la confiance, je pense que arriver à s'en sortir dans des contextes aussi
hostiles.
Bah, c'est peut-être pas aussi hostile que Jean Daugé, mais bon, c'est quand même dans un grand stade et tout. Je veux dire, t'es un peu en configuration phase finale, c'est un peu un échauffement, quoi. Non, t'es pas d'accord, Gérald?
Ouais, ouais, t'es en configuration phase finale parce que le grand stade, parce que le grand événement, parce que ouais, la grande fête du rugby. On a vu hein, quand les mecs sont rentrés sur le terrain avec le chant, le stade plongé dans le noir. Il y avait une ambiance, incroyable. Ce stade est magnifique. C'est sûr que toute la journée, la pression monte. Toute la semaine, les mecs de Bayonne ont dû avoir cette pression qui sont montés petit à petit. Et nous, on s'est nourri de ça, on a l'impression. Et on s'est nourri de ça en calmant ce stade très vite. C'était très vite, il fallait mettre la clim, tu vois, il fallait faire descendre très très vite la chaleur, la température, et c'est ce qu'ils ont fait tout au long du match, c'est-à-dire par cette défense, tu prends les points très vite aussi.
Ouais.
Eux ont cafouillé quelques ballons au début de match. Tibérien a gâché quelques trucs en se trompant de chaussons, visiblement. Bah, il faut mettre des vissés, mon garçon. Faut arrêter. Faut pas jouer avec des moulets. Mettre des vissés, mon grand.
C'est catastrophique.
Il est très bon en plus. Il a été bon parce que dans l'accélération, il nous met mal, tu vois. Quand il break et tout sur la première action qu'il fait où Fenganoukou prend un deb de l'enfer, quoi. Mais après, il glisse et c'est terrible pour lui, mais c'est tant mieux pour nous. Mais c'est vrai qu'après, nous, par notre défense, en prenant des points aussi, on reparlera du déroulé peut-être tout à l'heure du match, mais en prenant des points en pénalité au lieu d'aller en touche, on peut se dire, mais attends, on mène de presque 15 points, 20 points.
Non, c'était quoi. Très, très bien de
prendre
l'idée,
c'est vraiment poser la clim et augmenter à chaque fois un tout petit peu la clim un peu plus et pas laisser cette équipe s'enflammer avec tout le stade qui était prêt à s'enflammer derrière son équipe. Il fallait à chaque fois casser du rythme, prendre les mecs à la défense, les chasser, les étouffer et leur casser la gueule devant.
En fait, on a fait un match à l'extérieur parfait en fait. On a été très 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 efficace dès le début. Bonne entame et efficacité, on a pris les points quand il fallait et on les a calmés d'entrée. Et puis après, ça a tellement bien tourné de notre côté. T'as senti un peu Bayonne qui lâchait l'affaire et ça donne un score comme ça.
Mais... Ouais, non, c'est ce qu'il faut faire à l'extérieur, c'est mettre de l'agressivité, les mettre sous pression et être opportuniste. Donc Duncan qui intercepte, Baptiste qui va au contre, c'est pas de la chance, c'est pas du tout de la chance comme j'ai pu lire par certains autres supporters de notre club. C'est de la pression, c'est de l'agressivité et ça crée ces situations là. Les mecs en face, ils tremblent, ils sont sous pression, ils dégagent trop rapidement. Ils font pas les bons choix parce qu'ils veulent aller vite, se sortir. Et on a eu la chance d'avoir des mecs présents et efficaces, concentrés, comme on aimerait tellement toujours les avoir. Je pense surtout à Duncan. Donc.
Ouais. En fait, quand tu dis qu'on a fait le match parfait à l'extérieur, c'est que vraiment, dans ce genre de match, comme le dit Oli, il faut cette grosse défense, il faut avoir un plan de jeu. Respecter, réciter avec une grande maîtrise, et c'est vraiment tout ce qu'on a vu pour rouler sur Bayonne hier. C'est que tu les fais reculer constamment avec des dégagements propres, c'est-à-dire que tout ce que fait Jaminet et Dan Bigard pour sortir de notre camp, c'est parfait. On joue à l'extérieur, on joue sous la pluie, on n'a relancé aucun ballon de notre camp pratiquement pendant tout le match, c'est-à-dire qu'à chaque fois des grands coups de tatane au centre du terrain, on va chercher la bonne zone, on les fait reculer, et au ping-pong rugby, tu sais qu'ils ont des cannes derrière mais ils n'ont pas de jeu au pied. Il n'y a aucun mec derrière qui a un jeu au pied à part Camille Lopez. Il était dans un très mauvais jour, Camille Lopez. Il a été catastrophique tout le long du match.
C'est clair.
Donc en fait, pour le coup, toujours l'axe, le centre du terrain pour dégager, aller chercher le sol très vite pour avoir des rebonds, pour nous donner le temps de monter, les agresser. Et après, sur les plaquages, bah, une fois que tu as les 8 de devant qui sont comme ça, bien aidés souvent par des gros plaquages par Duncan ou Gabin Villière, ça donne le match que tu as donné hier. C'est de la maîtrise. C'est une maîtrise technique avec vraiment l'idée qu'il y a un plan de jeu, on le connaît, on le respecte et on récite. Mais on récite sans faire tomber de ballon, ce qui est très important par rapport au match qu'on a vu avant. Il n'y a pas un ballon tombé, bordel. Il n'y a pas un ballon tombé alors qu'on joue sous la pluie. Tout est propre. Les collisions sont gagnées en gardant le ballon et en pouvant jouer. Le seul défaut qu'on peut mettre sur ce match, le seul petit truc, c'est que par moment, nos zones de ruck, une nouvelle fois encore, elles ne sont pas assez propres. On met du temps à sortir le ballon par moment parce que nos zones de ruck, elles ne sont pas propres. On a 4-5 rucks qui sont très, très emmerdés par la défense adverse parce que nos soutiens sont pas assez propres sur les déblayages, mais c'est à peu près le seul truc que tu peux mettre en négatif sur ce match.
Ouais, mais c'est un problème un peu récurrent chez nous. On a déjà eu ce problème plusieurs fois. Là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il diminue un peu quand même dans tous les cas. Non, moi, c'est vrai que l'idée de maîtrise, enfin, quand on parle des 3 points pris alors qu'on a 25 points d'avance, moi, je suis tout le temps team 3 points. Quoi qu'il arrive, et là j'étais trop content, je dis putain mais oui les mecs, là vous avez compris, là il y a des cerveaux, là il y a de la maturité, il y a des mecs qui ont compris qu'ils étaient à la 45e minute, qu'ils étaient hyper dominateurs et que des essais ils en marqueraient. Il faut encore baisser la tête, faut être froid et vraiment les enfoncer encore plus, ouais, pour qu'eux déraillent. Et ça c'est le genre de truc qui me plaît, moi ça m'a plu. Pragmatisme.
Non, psychologiquement on les a dominés, et comme tu l'as dit, les 3 points c'était la bonne stratégie. T'as Jaminet qui loupe une pénalité à 45 mètres, légèrement excentré sur la gauche. Deux minutes après, il a une chance de retenter à 52 mètres. Il la passe.
Il a fait
et là, t'es Bayonne, je dis, peu importe ce que je fais, si on fait une faute à 50 mètres, ils vont nous mettre 3 points. Ouais. Peu importe ce qu'on fait, on remontera pas. Et c'était ça qui était important. Donc c'était très bien de pas aller trop vite, de vouloir marquer les essais, parce qu'en effet, on avait le temps de les marquer et de prendre les 3 points. Donc...
Ouais,
team 3 points, ouais, Mathieu, comme toi.
Ouais, merci. Olivier, t'es team 3 points ou t'es pas team 3 points?
Ah, team 3 points aussi. Hein. Pour ça, ça permet de prendre le
lead. Très l'adversaire. Pragmatique ce soir, Gérald. T'es team 3 points ou t'es pas team 3 points?
Ouais, moi je te dis, hein, c'est ce qu'il fallait faire, parce que je pense qu'il fallait garder cette équipe dans ce stade et cette équipe dans la tension qu'ils étaient. Donc il fallait surtout pas leur laisser de séquences défensives. Vous allez prendre le dessus sur nous et éventuellement se remettre, tu vois, un boost et de se dire allez, on peut encore le faire et tout. Non, il y a des points à prendre. On va les prendre. On va casser le rythme. On va vous mettre des 3 points. Jaminet est là pour ça. On va vous défoncer. Ouais, et je pense que dans la tête aussi, quoi. N'oublions jamais que on a fait un excès de confiance. C'est pas un excès de confiance, pas vraiment, mais. Etc. On le perd aussi avec ça, tu vois, à un moment donné où on part en touche, alors qu'il y a peut-être des points à prendre, mais parce que voilà, on se dit le score il est fait et on va les gagner. Donc là, ça fait partie des choses où Exeter, c'est un tournant pour beaucoup dans notre saison, cette défaite. Eh ben là, le match il est en main, il est pour nous. Eh ben on appuie encore un peu la tête sous l'eau, on laisse les mecs pas respirer et on vous prend des points. Et après, on construira le point de bonus offensif s'il vient ou pas. Mais le plus important, c'était de gagner.
Très, très propre, très bien fait. Beaucoup d'intelligence dans cette équipe. Très, très content. Dans les points positifs aussi, alors, je sais que toi, Gérald, tu n'aimes pas trop quand on dit ça, mais je suis désolé, mais tout le monde le dit, tu le lis de partout ce matin.
Quoi ? Ah, tu vas me refaire le coup de...
Ouais. Eh oui, je vais te le faire, mais c'est leur indépendance.
C'est épouvantable.
Ça me plaît pas non plus, hein. Je trouve ça terrible, mais c'est la vérité.
Je veux un peu compléter. En fait, c'est pas une sœur indépendance, c'est que tu mets Baptiste dans n'importe quelle équipe. Baptiste, là, il est au sommet de son art, il est génial. Tu le mets dans n'importe quelle équipe, il la transforme. Je veux dire, oui, il y a une équipe avec Baptiste et sans Baptiste, mais c'est pas, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une dépendance, tu vois, mais là, il change le match, Baptiste, c'est énorme.
Mais moi, après, ça me fait mal de dire ça, hein, mais c'est ça, c'est toutes les équipes sont dépendantes d'un ou deux joueurs. Enfin, t'enlèves Aldrit à La Rochelle, il n'y a plus personne, et ça c'est vu au début de saison. Ben, Toulon, tu nous enlèves Serein, c'est comme ça, il n'y a peut-être que Toulouse. Bordeaux, tu l'enlèves Jalibert.
Ah bah, ils vont faire des super matchs quand même.
Bah non.
Ils vont quand même faire des super matchs. Ils vont quand même gagner des matchs. Moi, je sais pas. Moi, j'ai regardé Baptiste Serein. Il a un numéro dans le dos. Il en a pas 15. Hein. Donc, il fait un super match. Je veux surtout pas minimiser le talent de Baptiste et tout ce qu'il fait et tout. C'est fabuleux. Hier, il donne le rythme. Il fait beaucoup de belles choses. Beaucoup de trucs super. Mais c'est pas Baptiste Serein qui tout à coup a réveillé Brian Alanouzé et qui fait encore un
j'aimerais tellement que ce soit le cas.
C'est pas Baptiste Serein qui fait que tout à coup Gabin Villière arrête de surjouer, joue juste, retrouve ses cannes et ses jambes. Ça n'a vraiment, on surévalue tout ça. D'abord, il n'y a pas que le retour de Baptiste Serein dans cette équipe, il y a d'autres retours. Il y a Abadi qui arrive de faire.
Il y a aussi le départ de Charles Olivon.
On peut dire. Est-ce que vous il y a aussi le fait que Vanicea se pète et on en est tous très contents. Ben, c'est pas gentil, mais bon, c'est pas gentil ce que je dis, mais ouais, ce que je veux dire.
Les propos
général. Non, mais c'est pas très gentil, mais bon, c'est voilà, c'est factuel. Ouais. On est quand même mieux sans le WCA qu'on a vu depuis le début de saison qu'avec. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ouais. C'est aussi important. Enfin, il y a toute une alchimie. Là, on a trouvé une troisième ligne complémentaire. Le match que fait Olivon en 8, parce que là, on parle de Baptiste Serein, mais c'est aussi le retour de Charles Olivon.
Oui.
Charles Olivon, je suis désolé. Vrai. Il arrête, il se blesse et il joue pas. Moi, je trouve que nos matchs catastrophiques, c'est à partir du MHR. Voilà. Ah ben, le dernier match de Charles Olivon, c'est à Toulouse. Moi, je trouve qu'à Toulouse, on fait un bon match.
Ah, on trouve que les deux matchs, bon match à Toulouse.
Les deux matchs de Champions Cup, ils sont bons, tu vois. Et je trouve que vraiment en qualité et en ce qu'on fait en production rugby, le match du MHR et tout ce qu'il y a après est vraiment pas terrible. Pour pas dire par moment hyper médiocre. Je suis désolé. Et là, Baptiste Serein à Toulouse, il est pas là. Et on fait un bon match à Toulouse. Ben White, c'est pas, même si c'est, il a pas l'aura et tout ce que va représenter aujourd'hui Baptiste Serein, c'est pas Ben White.
Mais attends,
c'est,
Baptiste,
c'est pas un as, quoi, si tu veux. Et tout ce que font aujourd'hui nos avants, là, quand on est à l'heure, ils font pas tomber un ballon au contact. Il y a plus ces ballons tombés dès qu'il y avait là, une charge et tout, un ballon sur deux. Je suis désolé, mais Baptiste Serein, il y est pour rien là-dedans. Alors, il amène un supplément d'âme, il amène tout ce que tu veux, mais il te fait pas non plus changer toutes les mecs dans leur tête. C'est pas possible. En fait.
Qu'il y a une touche sur un dans le... Non, et je suis persuadé qu'il y a une touche serein dans l'approche des matchs, dans la manière de mener les matchs. Tu le vois au début du match sur les images de Canal, il va voir tous les joueurs. Il va voir tous les joueurs du numéro 1 jusqu'au numéro 15. Il a toujours un petit mot pour lui. C'est le mec qui met les gars en confiance. Je suis sûr qu'il est capable de rassurer les types sur le terrain. Alors en effet, c'est pas lui qui fait tous les plaquages, qui porte tous les ballons, mais sa présence, elle amène un truc. Je suis persuadé. Ah oui.
Après
moi,
tout
je,
ça,
c'est, je te dis pas. Non, mais moi je te dis pas qu'elle apporte rien. Je dis que quand on parle de là, tu vois, c'est pareil. Quand je vois des journalistes rugby qui connaissent le rugby, qui ont vu je sais pas combien de matchs, et on en est encore des fois à te dire que c'est un mec dans une équipe de rugby qui va tout changer, ça me rend zinzin en fait. Vraiment, ça me rend fou. Je me dis mais comment on arrive à des trucs pareils où tout à coup on fait de ce sport qui est le sport où il y a 15 mecs sur un terrain avec 7 remplaçants qui vont rentrer un truc collectif avec des postes très différents, comment il y a des types qui aiment le rugby depuis qu'ils sont nés, qui peuvent encore sortir des choses aussi bêtes que, ouah putain, c'est la dépendance d'un mec. Et ça n'existe pas au rugby, ça existe au basket, ils sont 5 sur un terrain, ok, mais au rugby, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Brian Alanouézi, quand il avance comme ça, alors qu'avant il n'avançait pas, Baptiste Serein, il y est pour rien, vraiment, parce que celui qui l'a poussé au cul à Brian Alanouézi sur l'essai, c'est Duprez. C'est pas serein. Il y a quelque chose qui a été trouvé dans cette équipe, de la cohésion et de la solidarité en défense. Les mecs qui plaquent là, je suis désolé, hein. Moi je vois Duncan, le match qu'il fait Duncan hier, qu'il a fait au MHR, Baptiste Serein, il y est pour rien là-dedans. Vraiment. Je vois pas en quoi, parce que Serein, il est allé lui parler à l'oreille avant le match, tout à coup, Duncan, il est redevenu Duncan. Vraiment, Baptiste Serein, il est exceptionnel. Mais là, vous lui donnez des pouvoirs qu'il n'a pas.
Non, parce qu'il recadre tout le monde. C'est sur son leadership qu'il y a des bases, pas sur ses qualités de joueur encore. Bien sûr que ses qualités de joueur sont exceptionnelles, c'est sur son leadership où il peut y avoir des bas. Mais bon, on est d'accord que ce n'est pas Baptiste Serein qui fait tout le match. Il y a d'autres joueurs qui ont été…
Juste pour te dire, si moi je suis joueur de rugby, là, si ces gars-là, là, si vous avez raison… Le groupe de Toulon qu'on a là, s'ils ont besoin de la présence ou pas de la présence d'un joueur pour se booster et enfin jouer au rugby et avoir de la solidarité, en défense comme ils l'ont eu hier et la semaine dernière, si ça se joue à la présence ou non de Baptiste Serein, les gars, faites un autre sport. Partez sur d'autres trucs parce que vraiment, c'est terrible ce qui se passe. On a des internationaux à tous les étages. Il y avait 14 mecs à la Coupe du Monde. Si tu m'expliques que c'est Baptiste Serein, la présence d'un joueur qui fait que les mecs, ils avancent au contact, ils arrêtent de faire tomber les ballons et ils ont un plan de jeu clair, respecté, on arrête de faire n'importe quoi. Waouh. Je m'inquiète vraiment pour eux.
Bon, t'as raison. Il n'y avait pas que Baptiste Serein sur le terrain. Il y a eu d'autres points positifs qu'il faut qu'on évoque absolument. Il y a aussi... Abadi en touche. Moi, ça me rappelle Matt Phillips.
Exceptionnel.
Qui s'amusait en Pro D2 quand même. Hein. À l'époque, c'était le mentaliste de l'équipe. Et là, c'est pareil. Il est mentaliste. Il se met dans la tête des mecs et il va leur piquer le ballon à chaque fois.
Ah bah 10, ah bah il se met dans la tête énorme. Du talonneur, ça c'est certain. Le talonneur, ouais, quand il lance et qu'il a Abadi en face de lui, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que les mecs lancent plus droit parce qu'ils cherchent des zones qui n'existent pas, parce qu'ils essayent d'aller au-dessus d'Abadi. C'est un cauchemar, le type est un cauchemar. Il rentre dans la tête des talonneurs en face. C'est absolument incroyable. La première mi-temps, Bosch, expérience incroyable. Bosch, joueur international, vraiment un type avec une énorme expérience. Je pense que ce que lui a fait Abadi en première mi-temps, je pense que Bosch, il avait rarement vécu ça dans sa carrière. C'est extraordinaire. Non, ce garçon est incroyable.
Bayan a eu 15 lancers. On en a chopé 5 sur les 15. Et les 10 autres, ils ont tous été contestés.
Ouais, donc, ouais.
On va faire un petit big up quand même au staff vidéo du RCT qui a bien analysé la touche bayonnaise et qui a décelé tout ça. Mais ouais, grand bravo à Abadi, quoi. Il y a tout l'alignement en touche qui a été très propre. Et pareil, sur nos lancers, on fait 10 sur 12 au taquet, quoi. Là, ouais. Bayan aussi, on les a bouffés là-dessus, hein, sur la mêlée et sur la touche.
Non, mais la touche est impressionnante. Le travail de Parissé est incroyable. Vraiment, je trouve que dans les combinaisons qu'on a et tout, puis on a des mecs qui sont grands. Hein. Quand t'as Olivon, Ribens et Abadi dans ta touche, tu vois, tu peux sortir Brian qui fait pourtant 2 mètres et tu vas lui dire, allez, on va te mettre comme premier porteur là-bas, on va te lancer, tu vas être tapé dans les mecs une fois qu'on a la touche. Et quand t'as ces 3 mecs-là, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est génial.
Ouais. Mmh. Olivier ?
Et ouais, je trouve qu'en touche, vraiment, c'est vraiment l'inverse depuis le début de la saison. Où avec Tolofoa, on faisait n'importe quoi en touche. Là, on arrive à récupérer des balles, on arrive à les garder. Franchement, je trouve qu'on s'est vraiment amélioré là-dessus. Ça fait 2 matchs aussi avec Montpellier où on a été pas mauvais. Là, Abadi qui nous ressort des matchs monstrueux en touche, il nous récupère des balles qui sont limite impossibles sur certaines actions. Franchement, je trouve ça beau.
Il y a plein de mecs qui sont... Il y a des mecs qui sont indispensables. Serein, Olivon, Abadi, ils sont vraiment indispensables. Hein. Et puis ça, alors on va peut-être passer au top un peu, on va faire rapidement.
Bah, tu peux en citer d'autres hein, si tu dis.
Bah ouais, c'est pour ça justement, c'est pour ça je le dis.
Et Alex, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Bah, les Ribben, c'est les Brian Alanouzé quand il est à ce niveau-là, Gigashvili, le match de Bobigny, enfin il y en a là. L'ossature de l'équipe, elle se dégage et c'est.
Ouais. Dans les tops, on les a tous cités déjà. Moi, j'avais Alanouzé, Payoa, Villière. Ceux-là, c'est les joueurs qui reviennent en forme. Hein. C'est pas des joueurs qui étaient absents en sélection ou quoi que ce soit. C'est les joueurs qui étaient nuls et qui reviennent enfin à leur bon niveau. On dirait que tous les feux reviennent au vert en même temps. C'est ça qui.
Ouais, mais c'est Toulon depuis 3 ans. C'est Toulon depuis 5 ans. Ouais. C'est des demi-saisons. C'est des trucs à réaction. C'est tout à coup. Alors là, on part de moins loin. Du coup, avec 2 victoires, on est déjà 4e. Alors qu'avant, il nous fallait 3-4 victoires d'affilée pour retrouver un peu la 7e ou la 8e place parce qu'on avait pris tellement de retard. Mais c'est encore des saisons. Je suis désolé, mais même si on a 2 victoires et que c'est formidable et de prendre 10 points comme ça, c'est génial. Mais encore une fois, on fait des demi-saisons. On est parti pour faire encore des. On n'arrive pas à faire des saisons complètes avec vraiment. Soit on gagne tout, voilà, comme on a fait au mois de novembre. Après, on gagne plus rien pendant 2 mois, on ne sait pas pourquoi, et on voit des attitudes vraiment déplorables et vraiment du mauvais rugby avec des attitudes pas conformes à ce qu'on attend d'une équipe comme Toulon. Et puis après, on regagne des matchs parce que il fait beau, parce qu'il y a le changement d'heure. C'est pas possible. On peut pas. Tu vois, c'est pas possible, quoi.
Ça efface pas tout ce qu'on a vécu avant, quoi.
Mais oui, il va falloir construire un groupe avec de la constance. Hein. Ce groupe n'a pas de constance depuis trop d'années maintenant.
Mais moi, en tant que supporter, je reconnais aussi de l'inconstance. Hein. Je regarde à chaque fois le match, mais tu vois, je suis un peu la tête dans les nuages et tout machin. Alors qu'arrive le printemps. Je suis chaud comme une baraque à frites, tu vois.
Toi, je te demande pas de pousser en mêlée. Je m'en fiche que tu penses à autre chose. C'est pas mon problème. Tu fais ce que tu veux. Ça n'a pas d'impact sur ma santé mentale. Moi, quand les mecs, ils poussent pas en mêlée et qu'ils font n'importe quoi en défense, ça impacte ma santé mentale. Mais fortement, tu vois. C'est important pour moi.
Alors, attends, toi, t'as parlé d'Erug tout à l'heure. J'ai aussi des petits bémols. Alors, c'est pas forcément un bémol dans le jeu, mais alors, Bobigny et Singleton, ils étaient, pas sûr de jouer ce match-là avant. Heureusement, ils ont pu jouer. Bobigny a joué et Singleton. Jacques Singleton, ils l'ont appelé à la télé. Bobigny, il va devoir assurer jusqu'à la fin de la saison tous les matchs, en fait, derrière, parce que En fait, on est vraiment
bah, depuis, que t'as perdu, ouais. depuis que t'as perdu Tolofoa, t'as perdu Tolofoa. Ouais,
ça. Encore en fait, même Singleton a fait une bonne rentrée comparé à ce qu'on avait vu à ses matchs précédents.
Ouais. Il est un peu plus propre. Bobby Nisbet, tu le vois faire. Je sais pas.
Ah bah non, bah, si Bobby Nisbet, c'est fin de saison, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Si Bobby Nisbet, on n'est pas bien du tout. Hein, parce que Triard, pour l'instant, il revient toujours pas. Et même quand il va revenir, il n'aura pas joué depuis un an, quoi.
Même plus.
Et puis à chaque fois, tu vois, on nous dit il va revenir, il est machin et tout. Mais bon, visiblement, ça ne reviendra pas. Et Singleton, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas un talonneur titulaire de top 14 aujourd'hui.
Non. Sur le peu qu'il a montré, non, moi non plus, c'est pour ça
non,
que
j'ai
peur hein, pour l'instant. Je croise
Bobby
les doigts.
Bobby, le talon, c'est vraiment l'endroit où tu te dis, tu croises les doigts et tu te dis que pourvu qu'on ne pète pas ce gars-là jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on va être en difficulté.
Et c'est vrai. La gestion quand même du groupe sur ça aussi. C'est que tu n'as plus de joueur qui va le remplacer.
Ah oui, ouais. ça, on a déjà parlé, on le sait. C'est vrai que la gestion du talonneur, on ne va pas refaire l'épisode, mais oui, c'est.
On passe une bonne soirée, on est bien. Là.
On en reparlera avec le principal concerné dans la semaine.
Un petit épisode spécial dans le sujet va être abordé.
Il y a un truc prévu, et à un moment donné, on en reparlera.
Voilà, exactement.
Et on aura des réponses. On espère.
Et on nous dira, bah oui, mais bon, il voulait partir parce qu'il a demandé trois fois. Alors, à la troisième fois, les mecs, quand ils nous demandent, on leur dit oui. Ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire?
Exactement.
Donc, on espère parce que on parle de Singleton, mais Singleton, ça va être compliqué pour lui d'assurer d'être titulaire pendant 3, 4, 5 matchs. Je sais pas, si Bobby Nisbet, mais qui tu mets sur le banc? Parce que Singleton, il va pas jouer pendant 4 minutes.
Là, ils essayaient Brooks, apparemment. Brooks, il peut faire talonneur, alors, si j'ai bien compris.
Brooks, talonneur, bonne chance, les gars.
Il peut, mais il faut pas le faire.
Je sais pas s'il s'entraînait au lancer ou s'il le mettait carrément.
Si tu me dis que c'est Serin qui fait les lancers, je suis plus confiant.
Bah écoute, je sais pas, ou alors je l'ai rêvé dans la nuit, mais il me semble que Brooks il faisait quelque chose.
Mais t'as raison. Bon. Ils l'ont essayé parce qu'on sait que Giga aussi, on l'avait déjà vu lancer à un moment donné. Hein, et tout.
Ah ouais, mais attends, c'était catastrophique avec Giga aussi au lancer. Hein. Je me souviens, c'était pas bon. Hein.
Ah bah c'est pas son poste. Hein,
Bon bref.
On vise pas à faire des lancers.
Pour l'instant, ce match est bien. On va pas finir sur une mauvaise note. On est très content.
Non.
En plus,
on a vu un super match avec des supers attitudes. On a vu d'essais construits. On a vu deux beaux essais construits. On a vu des attitudes incroyables. On a vu une défense féroce.
Je sais pas si vous avez remarqué. On avait fait la remarque il y a quelques épisodes où quand Alagahu avait gratté un ballon, il y avait que lui qui levait les bras, qui était content.
Oui.
Et
c'est notre ami Bastien qui avait dit ça.
Ah, voilà, Bastien.
Oui, c'est Bastien qui l'avait souligné.
Ouais. Ouais. Et là, j'ai regardé les attitudes de tous les joueurs. Tout le monde était ravi dès qu'on gagnait un ballon, dès qu'on avançait, dès qu'on grattait une pénalité. Et voilà, quoi. Il y a quelque chose qui est revenu dans ce groupe.
Non, mais même, tu vois, c'est serein. Tout est serein, en fait. Vous embêtez pas dans les prises. dès que vous êtes embêté dans une pièce, vous dites grâce à serein et au moins on est tranquille.
Pourquoi on enchaîne? Ne remets pas une pièce.
Depuis qu'il est revenu, tu peux pas dire enchaîne.
Surtout que, ce qui est bien dommage, c'est qu'après un match pareil, il faille faire une pause de 2 semaines pour voir le prochain adversaire qui est Toulouse. Ça, c'est quand même un peu triste. À Toulouse, qu'on recevra d'ailleurs au Vélodrome, et voilà, dans 3 semaines, ce sera le 20 avril. Une affiche qui semblait complètement déséquilibrée il y a encore quelques semaines, ce sera finalement bien un choc entre deux équipes de haut de tableau, le quatrième qui va recevoir le deuxième, les internationaux qui seront présents, un stade qui devrait quand même se remplir d'ici là, vu la dynamique du RCT. Gérald, c'est un match qu'il ne va pas falloir louper, j'imagine.
Ouais, c'est un match hyper important, mais maintenant il reste 6 matchs. Donc tous les matchs, de toute façon, que tu vas jouer à domicile, même si tu le joues pas complètement à domicile, mais c'est presque victoire obligatoire maintenant. Maintenant, t'as 6 matchs, tu te dis, t'en as 4 à gagner si tu veux rester dans les 6. Et être tranquille, si tu veux. Tu peux en gagner que 3 et rester dans les 6. Mais si vraiment, tu vois, tu veux ne pas dépendre des autres et dépendre de toi, tu te dis que tu peux gagner à Oyo. Voilà, oui. C'est dans le possible. Et tu vas gagner tes 3 matchs à domicile. Si tu fais ça, alors tu seras probablement dans les 6, voire éventuellement, pourquoi pas, dans les 4. Voilà. Mmh. Et dans ces matchs-là, il n'y a rien d'impossible. La vraie difficulté, le gros truc, c'est Toulouse.
Ouais, Toulouse, c'est chez toi. Match au Vélodrome, clairement. Oui.
Ouais, avec une inconnue importante qui est avec quelle équipe ils vont venir chez nous. Parce qu'ils auront, eux sortiront de deux gros matchs de Champions Cup.
Au moins un, si, parce qu'ils jouent le Racing, donc du coup, la semaine prochaine, en Champions Cup. S'ils gagnent, ils passent au tour suivant. Donc, on aimerait bien qu'ils gagnent pour pouvoir jouer.
La semaine d'après, tout de suite, et oui.
Et, ouais, et après, c'est arrivé à Toulon. Donc, je pense que s'ils enchaînent deux matchs de Coupe d'Europe, il y a quelques joueurs importants de l'effectif du Stade Toulousain qui ne feront pas le déplacement au Stade Vélodrome.
Et oui, mais ça, c'est certain, parce que leur calendrier derrière, en plus, après nous, ce n'est pas la joie non plus. Ils reçoivent deux fois le Racing et le Stade français, donc deux matchs qu'ils ne peuvent pas louper. Donc,
Mais en fait, le calendrier, maintenant, il fonctionne en deux matchs. Tu joues deux matchs de top 14, tu fais deux matchs de Champions Cup ou de repos. Donc, en fait, le calendrier, il est comme ça. Donc, en fait, tout est en bloc par bloc de deux matchs. Nous, par exemple, c'est que des pauses. Toulouse, il n'y a pas de pause. Parce oui, que, voilà. A priori, ils vont aller au bout des deux compétitions. Enfin, tu vois, des compétitions, j'imagine pas. Toulouse, être sorti par le Racing chez eux. Et après, je crois que c'est Basse ou Exeter qui vont jouer s'ils se qualifient. Franchement, je ne les vois pas se faire éliminer.
À domicile, d'ailleurs, leur quart de finale.
Ouais, parce qu'ils ont fini premier, donc ils vont toujours jouer à domicile.
D'accord, ok.
Donc ça, c'est pour eux, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour nous, comme dit Oli, c'est que s'ils jouent leurs deux matchs, chez nous, ils vont arriver avec des mecs qui vont mettre un peu au repos, j'imagine.
C'est évident.
Donc après, faut voir, quoi. Parce qu'ils ont, ils ont un matelas maintenant en top 14. Pour finir dans les deux premiers, ils ont un petit matelas.
Oui, pour être dans les deux premiers, oui. Mais si ce match contre le Racing, il leur conforterait encore plus cette place-là, puisque le Racing est troisième et qu'il serait... Le match contre le Racing qui est jusqu'après nous, ce sera peut-être encore un match encore plus important. Enfin, après, moi, franchement, avoir ces conversations et de me dire « Pitié, pourvu que Toulouse ait pitié de nous et envoie le truc », au bout d'un moment, ça m'agace aussi quand même. Mais si Toulouse, ils veulent envoyer la grosse équipe, qu'ils l'envoient. Hein. Parce que franchement, nous, ce serait bien aussi qu'on puisse se juger et voir si on arrive pendant les phases finales, si on est capable de gagner un match ou si on sera éliminé d'entrée parce qu'on est nul, tu vois. Donc,
si Toulouse envoie la grosse
équipe, qu'ils l'envoient, au contraire. Hein.
Non, mais t'as raison.
C'est quand même notre avantage s'ils peuvent arriver un petit peu amoindri. Après, ils viendront avec qui ils viendront, hein, s'ils veulent venir avec la grosse équipe. En effet, comme tu dis, ça serait une bonne occasion de se tester.
Mais oui.
Et vu ce que j'ai vu sur les deux derniers matchs de Toulon, même si c'est Bayonne, même si c'est Montpellier, ouais, on peut quand même rivaliser avec eux.
Après, on dit qu'ils vont venir amoindri, mais... Pendant le tournoi de destination, ils ont battu tout le monde avec leurs jeunes, avec des mecs qui sont pas forcément toujours les titulaires et ils ont gagné leur match. Hein.
Bah oui, exactement.
Puis là, à Toulouse, en ce moment, ils déjouent un peu, ils sont un peu sur un truc en défense, ils prennent beaucoup de points. Et puis, ça joue un aura rugby.
Et comme tu l'avais dit tout à l'heure, Gérald, s'ils veulent gagner, ils vont gagner, ils vont gagner. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont une bonne mentalité sur ça. Ils veulent gagner, ils vont gagner. Il n'y a pas de « on va perdre ». Alors que
les matchs qui ciblent, les matchs qui ciblent, ils savent les gagner. Et
les
là, on est là en train de
ciblés, ils sont dedans.
Mais après, nous, à voir si on est des concurrents pour eux, tu vois. S'ils n'ont pas peur qu'on peut potentiellement, avec plusieurs équipes derrière, aller chercher leur place s'ils perdent plusieurs matchs derrière.
Mais j'espère que dans le staff,
il y a pas
comme ça dans le staff du RCT à se dire pitié pourvu que Toulouse.
C'est pas le jeu.
Est-ce que Olivier, tu seras au stade pour ce match?
J'y serai au stade, j'y serai.
Bah, franchement, moi en tant que pseudo supporter, je savais pas si j'allais y aller. Mais on a gagné. Franchement, je ferais peut-être le trajet, moi.
C'est ça les pseudo-supporters. Tu vas que quand ça gagne.
Pour être encore un vrai, attends quelques jours, tu auras peut-être des promotions ou des places offertes dans un restaurant de sushi.
Franchement, là, ils se frottent les mains, par contre, la direction. C'est vrai que c'est
ça arrive au bon moment.
Ça va remplir le stade. Ça, pour le coup, c'est quand même cool.
Carrément.
C'est très bien. C'est très bien. On va avoir une belle ambiance. J'espère qu'on va avoir un beau match et surtout qu'on va avoir une grosse ambiance au Vel, même si, c'est pas chez nous et ça nous.
Il y en aura pas.
Ça casse les pieds. Moi, pur Toulonnais, je peux vous dire qu'elle est à Marseille. Ça me saoule, mais alors d'une force, mais irrésistible, quoi. Je suis vraiment. Ça me tend terriblement d'aller là-bas. Mais bon, après, si on a un gros match et puis. On en parlera plus tard. Il faut aussi un peu de billetterie dans ce club. Il faut faire entrer de l'argent, visiblement.
Exactement.
Et au Vélodrome,
il en a pas. C'est un samedi soir.
C'est un samedi soir. Ça peut. Toutes les conditions sont bonnes. Alors la météo, c'est un peu trop tôt pour savoir. Mais si la météo est bonne, tous les voyants sont au vert, ça peut faire vraiment un match sympa quand même.
Ouais, et puis c'est à Serein qu'on est tranquille.
Exactement.
Voilà, en 10 minutes, on a
t'as compris.
Vous m'avez converti, les gars.
On l'a converti. Bon, écoutez, les gars, Toulouse est dans 3 semaines. Je crois qu'on ne peut pas dire beaucoup plus. On va pouvoir passer en plus aux news de la semaine. Ça concerne des transferts. Nous, on aime bien les news transferts en général aux causeries de la Rade. Même si cette news-là, on en a quand même parlé pas mal de fois, puisque c'est la news sur les arrivées de Sinclair et Ludlam. Mais cette fois, ça a été confirmé par Bernard Lemaître en personne. Et en même temps que cette annonce, il a fait cette déclaration en plus que je trouvais intéressante. Je cite « Nous essayons d'être de plus en plus exigeants sur l'état d'esprit, le comportement et le style de vie des joueurs à l'image de leur impressionnant compatriote David Ribbans. » Voilà, il semblerait qu'il y ait eu une prise de conscience de ce point de vue-là. Oli, est-ce que c'est quelque chose qui te rassure ?
Absolument, 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 parce que c'est pas le problème, c'est pas de faire venir des mecs de talent, hein, de les faire signer, c'est de faire venir des mecs et de les garder dans l'esprit d'éthique de travail. Alors, il y a le Stade Français, il y a le Racing Métro et Toulon. Je pense que c'est 3 clubs très très intéressants pour les mecs qui aiment faire la fête. C'est-à-dire, si ceux qui signent à Brive, à Clermont, ils ont pas ce souci-là. Donc, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est même crucial d'avoir des mecs impliqués dans le projet, d'avoir des mecs propres, pro, carrés, qui sont là pour le club, parce que c'est très important pour nous, le RCT. Il faut que ce le soit pour eux aussi. Et on peut plus se permettre d'avoir des mecs qui se battent avec leurs coéquipiers, comme ça a été le cas à une époque. Ou quoi, on veut des gens sérieux.
Ouais,
c'est après, vrai. Ils sortent s'ils veulent sortir, c'est pas un souci, mais il faut quand même avoir cette rigueur derrière.
Bah écoute, visiblement.
Faut faire attention à ça.
Les Anglais, mais en plus nous en général les Anglais ça nous a quand même bien réussi en gros. Attends, les Anglais du RCT, bon il y a Wilkinson évidemment, mais les Nick Kennedy, Simon Shaw, Andrew Sheridan, Chris Chesney, Chris Ashton, Dan Luger, ils ont tous
ouais, les Anglais, les Sudaf, ouais. C'est des mecs qui correspondent bien, qui oui, correspondent bien à tout le monde,
correspondent bien à notre
Henson aussi, c'était vachement bien.
Qui ça?
Ouais, les Anglais, Henson aussi, c'était bien.
C'est pas un... t'as dit Gavin Henson?
Gavin Henson?
Eh ouais, mais c'est un Gallois. Attends, ça n'a rien à voir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est un
Gallois. Les Gallois, c'est pas du tout pareil. Hein. Les Gallois,
non, ça t'as raison.
Mais les Anglais, par contre, ça marche bien.
Non, mais comme on dit que David Ribbans, c'est un Anglais, alors moi, alors que c'est un Sudaf.
C'est Jovan Ribbans.
Jovan Ribbans.
Il est très bien. Non, mais les deux mecs, les deux, Ludlam et Sinclair, en plus, c'est quand même des bonnes pioches, je pense. Hein. Ludlam, c'est un 6-7-8... de 28 ans, il est quand même 24 sélections avec l'équipe d'Angleterre. C'est quand même un mec qui est assez solide. Il joue super bien avec Northampton. Il a joué la Coupe du Monde. Donc, ça semble être l'avenir quand même, Ludlam. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ses matchs récemment ou si vous avez vu quelques highlights sur YouTube, mais c'est du solide hein, quand même.
Ouais, c'est du solide. Il est mobile également. Donc, c'est très intéressant. Ça va aller parfaitement dans notre troisième ligne. Pour savoir si une recrue est bonne, je la compare avec le joueur qui va partir. Donc, en l'occurrence, c'est très probablement Dupraz. Donc, on n'a rien à reprocher à Dupraz. Hein. On parlait des joueurs exemplaires, il en fait partie. Je trouve quand même que c'est un upgrade par rapport à Dupraz.
Ouais.
Donc, je suis satisfait.
Ouais.
Sur le papier, tu vas dire que c'est un upgrade parce que tu vois arriver un international, parce qu'il est plus jeune, que c'est important, hein, tu vois, si tu fais signer des contrats à 2-3 ans, c'est avec Dupraz, tu te dis que c'est peut-être pas le moment d'aller lui donner ce contrat-là, parce qu'il a 33 ans, hein, je crois.
Dupraz, il est non-gif. Donc pour un non-gif, vraiment un mec qui t'apporte une
Même
très grosse plus-value.
Oui, t'as raison. Maintenant, Ludlam, moi j'aime beaucoup le joueur. Moi je l'ai découvert quand il a fait le tournoi Destination l'année dernière, non, il y a 2 ans, avec l'Angleterre. Où j'ai trouvé que c'était un sécateur, quoi. C'était un plaqueur avec une beaucoup de déplacements, vraiment dynamique et tout ça. Là, il sort d'une blessure. J'ai vu des images de son match la semaine dernière. Je me suis dit, oulala, quelques kilos en trop, mon garçon. T'es pas au top. T'es pas. Non, il a pris un peu là. Il y a eu une course où il se fait. il se fait transpercer en défense et son repli derrière, sa course et tout pour revenir. Tu vois le gars qui pioche et qui est en difficulté. Mais bon, il rentre, il sort d'une blessure assez importante. Je crois qu'il a été blessé au mois d'octobre ou novembre, je sais plus.
Ah, ouais, quand même.
Donc, ouais, il reste un moment en forme. Mais là, on sent qu'il est pas, il est pas au top de sa forme physique, on va dire. Mais si, en tout cas, joueur avec la réputation d'être un travailleur et d'être un super mec. Donc voilà, et puis Sinclair, ça a été pendant longtemps un des meilleurs piliers droits du monde, même si maintenant il est sur lui aussi, il est plutôt sur une fin de carrière, mais...
fin de carrière, il a que 30 ans quand même pour un
piqué. Oui, ouais, mais il est plus au prime, quoi. Son prime est passé, on va dire. Oui.
C'est ce qu'il nous disait notre correspondant anglais, Alex.
Ouais, Alex.
C'est que il a plus l'air
d'être... Son prime est passé. Mais ça reste un super joueur. Là, je le vois. Et il joue encore 60 minutes chaque match, chaque semaine, avec son club et tout. Donc, non, il a l'air d'être en forme. Il a l'air de faire des bons matchs. Donc,
pareil.
C'est une super... Lui, pour le coup, la plus-value avec Brooks, elle est évidente.
Ça. Oui. C'est clair que lui
est complètement évidente.
66 sélections quand même, 6 avec les Lions britanniques. Non, c'est un client hein, qu'elle.
Non, attends, mais là c'est un bonhomme. Hein.
Ouais.
Bon, là, Sinclair, c'est quelqu'un quoi. Lui, Sinclair, c'est-à-dire que quand Bekashvili il est pas là, si t'as Sinclair, tu te dis bon,
c'est cool,
ça va quoi. Ah, tu vois là, le gap entre Beka et ceux des mecs derrière dans la hiérarchie du club, elle est très importante.
Je pense qu'il délogera pas Gigashvili parce qu'il est indélogeable. Hein, c'est lui maintenant et l'expérience du top 14 et tout.
Exactement.
Ça.
Oui, mais tu peux faire une vraie rotation comme on fait à gauche. À gauche, il y a une vraie rotation. Tu peux faire une rotation comme ça à droite si Sinclair il s'adapte bien et que si tout se passe bien. Mais
j'ai pas envie de porter la choumoune, mais je sais plus où je lisais ça. Mais c'est vrai que Gigashvili, il s'est jamais blessé à Toulon.
Ah ouais,
j'ai mis une blessure. Ils l'ont reposé de temps en temps, mais les matchs qu'il a loupés, c'était soit des sélections, soit du repos ou des choix de. Mais il s'est jamais. Oh putain, pourquoi j'ai dit ça?
Non, c'est vrai qu'il a, très peu de blessures. En tout cas, ou alors c'est des petits bobos. C'est sur un ou deux matchs, c'est tout quoi.
Ouais.
C'est une valeur sûre. Hein. Beka, c'est un des meilleurs piliers droits du championnat. C'est valeur sûre, mais l'année prochaine, il a 33 ans, Bekashvili, tu vois. Donc, c'est pareil. Il faut quand même se dire aussi que ce gars-là va pas pouvoir jouer tous les matchs 50-55 minutes comme il fait actuellement, quoi.
C'est ça.
Non, faut penser à l'avenir aussi, voir qui on a chez les jeunes pour les faire re-signer pas trop tard, pas attendre trop longtemps, comme ça a été le cas pour Devaux. Hein. Je remets le couvert, mais moi, je l'ai toujours un peu en travers de la gorge, quoi. Sa signature qui aurait dû faire l'année dernière.
Il y a toujours Coulon qui a prolongé.
Il y a toujours Coulon qui n'a pas prolongé.
Donc voilà, faut anticiper l'avenir. Là, c'est bien, on construit le présent, mais on construit trop le présent depuis trop d'années avec plus ou moins de succès. Donc là, on va en revenir aux âges, hein, 28 et 30 ans. Donc c'est pas l'avenir, mais c'est encore le présent.
L'avenir, il est déjà au club. Hein. L'avenir à droite, pour tout le monde au club, c'est Michelidze. Hein. Michelidze, c'est quand même un gros bébé, quoi. Je pense que après 19 ans pour un pilier, c'est vrai que c'est jeune, il faut être un phénomène pour jouer en top 14 à 19 ans.
Non, mais
il y en a de plus en plus qui commencent à venir. Mais il a joué déjà cette année, je crois
qu'il a déjà été sélectionné
de feuilles.
Une fois, il a fait une bien feuilles, ouais. Pourri le quota de signatures de joueurs non GIF pour le recrutement ensuite.
Ouais, mais à voir, je pense que lui, c'est lui l'avenir à droite chez nous. Donc après,
il est GIF, on est d'accord, formé au club.
Pas encore. Pas encore.
Il lui reste un an, je crois, à faire.
Ah merde, d'accord.
Ouais, bon. Je crois qu'il lui reste un an ou deux pour passer GIF.
C'est mais ça, il va l'être.
Mais bon, ils sont. Ouais, il a joué contre Lyon, c'est ça, il a joué contre Lyon chez nous. Non, là-bas, il a joué. C'est lui qui était rentré. Mais ouais, c'est un beau gabarit, beau bébé. L'avenir du club à ce poste-là, c'est lui normalement qui doit rentrer maintenant dans la rotation et qui doit sortir du centre.
Bon, bah écoutez, c'est bien. Michelidze, Sinclair et Giga, on est bien.
Il y aura Setiano aussi, encore.
Ah oui. Ouais. Et Setiano.
Il portera une bouteille toujours là.
Super.
Voilà.
Bon, les gars, sans transition, j'espère que vous êtes chauds, mais là, on va passer à quand même la réunion. Le maître et Mignoni qui a eu lieu mardi dernier. C'est le gros dossier de la semaine. C'est cette rencontre entre le maître Mignoni et les supporters au campus du RCT. Alors, pour les autres, les sales supporters, les sales pseudo-supporters, pardon, qui n'y étaient pas et qui, en plus, n'ont pas regardé la rediff, on va vous faire un petit compte-rendu de ce qui s'y est dit. Ah, c'était une réunion qui était assez intéressante par les sujets quand même qui ont été abordés, mais aussi par ceux qui ont été esquivés, oui, parce que parfois, les silences en disent plus que de longues tirades, mais on verra ça plus en détail plus tard. Mais déjà, sur la forme, toi, Gérald, ce concept de mettre le président et le coach face aux supporters en mode question-réponse, tu trouves que c'était une bonne idée? Le concept, il était bien, ça t'a plu?
Ouais, moi, j'avais dit la semaine dernière, on a eu un débat un peu enflammé avec les copains qui n'étaient pas d'accord avec le format et qui trouvaient c'était biaisé. Moi, je trouve que c'est pas biaisé et je trouve que du coup, ça s'est passé à peu près comme j'imaginais, c'est-à-dire que les mecs ont pu poser les questions qu'ils voulaient et en face, ils ont répondu. Après, je trouve dommageable que les gens qui avaient des questions plus sur la direction avec pour montrer un peu leur mécontentement et tout ce qu'on a vu avec la lettre, avec les cartes déchirées et tout ça, ces gens-là ne s'en sont pas beaucoup déplacés, donc ils étaient peu nombreux. Donc du coup, il y a eu un peu la part belle à ceux qui... considère que être un supporter, c'est être un supporter quoi qu'il arrive et qu'on doit toujours être d'accord avec la direction, quoi qu'elle fasse et quelle qu'elle soit. Donc il y a les supporters qui considèrent qu'il faut être comme ça. Ben, il y en a qui disent que non, un supporter, c'est aussi un garant d'une identité et qu'on ne doit pas toujours être d'accord tout le temps avec la direction et qu'on a le droit de dire son mécontentement quand on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre club. Ouais. Bon, voilà. Mais là, ces gars-là n'étaient peut-être pas assez présents. Et c'est dommage. Mais en tout cas, je trouvais que l'exercice avait plutôt bien fonctionné et que des choses avaient été dites dans cette réunion. Et on va revenir en détail, mais j'ai trouvé le format intéressant.
Ouais, et toi Olivier?
Le format, je trouve que franchement c'était bien, mais l'utilisation de ce format, ça a été mauvais, parce que quand il y avait des vraies questions, genre par rapport à la Bruce de Vaux et tout ça, ça répondait avec deux mots et ça changeait de question, ça prenait pas le temps d'expliquer, etc. Du coup ça sentait un peu comme je sais pas comment expliquer, mais un peu du dégoût, parce que tu poses une question, t'attends une vraie réponse, tu t'attends pas à deux mots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Après, il y a eu quand même, tu vois, je trouve qu'il y a des sujets où ils ont quand même expliqué les choses. De Vaux, c'est clair. Hein. Enfin, tu vois, ils l'ont. C'est assez clair, ils l'ont expliqué, c'est à peu près ce qu'on avait imaginé. Puis De Vaux, après, il a fait la conférence de presse. Donc,
D'accord, mais comment tu fais pour que le club se retrouve dans cette situation-là? À ce moment-là, on se retrouve maintenant.
C'est des vraies questions à poser. Ça, c'était des vraies questions à poser.
Et moi, je pense par exemple, les pseudo-supporters, comme ils nous appellent, ne sont pas venus parce qu'ils ont senti qu'ils n'auraient pas les réponses attendues. Il y a déjà eu une première soirée au début de saison, il y a des choses qui ont été dites. Certaines choses ont été faites, d'autres pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne se sont pas déplacés. Ils ont pu penser que c'était une entourloupe. Donc je pense que c'était très bien que M. Lemaître et Pierre Mignoni viennent répondre aux questions des supporters. Mais comme tu as dit, Olivier, voilà, c'était peut-être pas non plus les bonnes réponses au bon moment.
Il y a une question par rapport à des Louis Carbonel, des Van der Berg, je crois. Des Louis Lebrun. Pourquoi ils ont été partis? Et là, il a dit, Bernard Lemaître, je crois que c'est... Il avait dit, Lebrun, c'est pas ma faute. Et après, il a changé de question.
Il a répondu sur la formation. Après, on va revenir plus en détail sur le contenu. Moi, juste encore une chose sur le format, je suis un peu plus terre à terre. Je trouve que le format, c'était une bonne idée, mais pourquoi il n'y avait pas assez de pseudo-supporters? En fait, il n'y avait pas assez de monde globalement. Ils l'ont dit dès le début, la salle, elle était... Ils auraient aimé qu'elle soit un peu plus remplie, mais cet horaire, un mardi soir à 18h, en général, les gens à 18h, c'est l'heure où ils finissent le travail.
Et quand ils travaillent encore, où il y en a qui habitent loin, on n'est pas tous sur Toulon.
C'est principalement des retraités qu'il y avait. Globalement, non, mais quand tu regardes de derrière, c'est des retraités, les gars.
Mais voilà, en faisant ça, ils ont sélectionné qui ils voulaient avoir dans la salle.
Et le peu de.
Non, mais c'est pas une sélection. Non, mais ça, on peut pas leur reprocher. C'est pas une sélection. C'est eux, ils ont sélectionné l'heure et ils se sont retrouvés.
Tu le fais exprès.
Le peu de personnes qui voulaient dire des choses qui étaient à l'encontre de la direction, ils se faisaient huer carrément. Ça, c'est lunaire quand même.
Moi j'ai entendu, et en fait il y a eu une ou deux interventions où tu as entendu des petits sifflets, pas des sifflets mais des petits, tu vois, le petit brouhaha, le petit truc, oui, qui fait mais on dit pas, mais, ça, il faut pas, oui, dire ça et tout, ça, machin. Bon, moi je sais pas, si on fait une réunion de supporters, il faut que tout, si vous voulez que toutes les sensibilités soient là et que tout le monde puisse parler, parce que pourquoi cette réunion elle existe? Cette réunion, elle existe pas parce que tout va bien au club et que c'est formidable. Elle existe parce que il y a besoin de clarifier des choses. C'est le maître qui le dit tout de suite. C'est-à-dire que quand il prend la parole au début, le maître qui fait son monologue de 40 minutes, ses deux premières phrases, c'est pour dire qu'il faut, il faut préciser des actions qu'ils font au club parce qu'il y a de la méconnaissance, il y a de la désinformation. C'est ça, il dit littéralement ça. Donc il y a des gens qui vont être là qui sont pas contents. Il y a des gens qui vont être là qui veulent des précisions. Il y a des gens qui vont revendiquer des choses. Si, quand ils prennent la parole, t'as toujours les fanatiques de quoi qu'il arrive, on critique pas, il faut rien dire, c'est pas bien de parler comme ça, c'est pas bien de poser ça. C'est incroyable de faire ça, en fait.
Ouais, mais honnêtement.
Laisser les gens s'exprimer tranquillement et arrêter d'avoir cette espèce de truc de, ah, ils critiquent et tout, c'est pas bien, comment on peut poser des questions comme ça? C'est bon, les gars, quoi. On est là pour ça, en fait.
Je suis d'accord avec toi, mais pour l'avoir regardé quand même plusieurs fois, après quelques notes. Franchement, c'est arrivé. Moi, j'ai entendu vraiment une fois où il y a le mec qui a commencé à dire « vous sortez du bois » et là, les gens ont fait « oh, yeah ». Mais après, sur le reste, même la dame qui s'est énervée sur le cas de veau, on l'a laissé parler. Donc là-dessus, je n'ai pas trop été choqué plus que ça.
Non, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Mais après, c'est vraiment… Ça ne se fait pas juste pour dire un truc à tous ces gars qui disent « ouais, mais vous critiquez alors qu'il n'y a pas… » Il ne faut pas critiquer, sinon vous n'êtes pas des vrais supporters. Et qui font fanfaronne depuis la victoire là, parce qu'il y a eu deux matchs, qui disent ah, qu'est-ce que vous faites et tout machin, bidule, ok les gars, putain, c'est encore une fois les gens qui râlent, et je fais pas partie de la fronde machin, tu vois, je me considère pas comme un espèce de frondeur et tout, j'observe, et puis il y a des choses qu'on dit ici, on essaye d'être le plus comment on pourrait dire ça, le plus factuel possible,
c'est ça.
Mais on essaye d'être juste dans ce qu'on dit, mais c'est pas parce qu'on critique le club qu'on aime pas Toulon. Je sais pas, moi, vous êtes français, les gars, j'imagine. Vous êtes toujours d'accord depuis que vous êtes nés. J'ai vu des mecs là, vous avez 60 piges. Ça fait 60 piges que vous êtes d'accord avec tous les gouvernements français? Non. Il y a des fois, ça vous saoule et pendant un moment, vous dites, il y en a marre de ce président, il y en a marre de ce gouvernement. Ça fait pas de vous des mauvais français.
Non, mais ça.
Un club du RCT, c'est la même, en fait. On est là, on aime ce club depuis, pour certains, pour 30, 40 ans. Eh ben, il y a eu des périodes où on était d'accord avec ce qu'a fait le club. Il y a des périodes où on est moins d'accord. Il y a des périodes où on est en phase et d'autres où on est moins en phase. Mais ça veut pas dire qu'on est des mauvais supporters comme vous. Ça fait pas de vous des mauvais français parce que vous, à un moment donné, vous êtes cautionné pas ce que fait un gouvernement. Faut arrêter d'être crétin comme ça, un minimum, et que ça vient de gens qui ont 60 piges, qui réfléchissent comme ça, mais ça, c'est fou, en fait. Comment vous, il n'y a pas un moment donné là-haut, il y a un peu de bulbe qui fonctionne et vous dites, vous arrêtez d'avoir cette espèce de fonctionnement de gamin, quoi. On n'est pas dans une classe de CM1, en fait. C'est quand même fou. Moi, dans une classe de CM1, s'il y a un mec qui prend, s'il y a un élève qui prend la parole, il y en a deux au fond qui font les malins à huer et tout, à pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais normalement, on les punit, en fait. Bon, ben, visiblement, ces gars-là, ils n'ont pas été en CM1, ils n'ont pas été dans les classes d'après non plus, visiblement. C'est fou, en fait.
Ah, c'est incroyable. On a l'impression que
faut laisser les gens tranquilles, quoi.
On a l'impression que tout ce qui s'est passé avant, ça n'a pas existé. Je me suis réintéressé au moment où ont été posées les banderoles, les stickers, tout ça. Donc,
attends. Parce qu'on va. Le truc chronologiquement, parce qu'en fait, le truc, il
vient après. Ok.
Ça vient après. Donc, attends. Dans l'ordre, il a fait d'abord son petit. Avant de passer aux questions-réponses, il a d'abord fait son petit texte de préambule, Bernard Lemaitre, qui était assez intéressant, où il a présenté un peu la situation sportive et économique du club, les objectifs. Alors, il fait d'abord le constat depuis 2016 d'une très lente décroissance. On l'a tous vu, autant sur le plan sportif qu'économique.
Ouais, marketing aussi.
Bien sûr,
il descend, ça se voit.
Après, il a parlé des objectifs, il a donné l'objectif au moyen terme, installer le RCD dans le top 4. Il rappelle qu'un club qui vise le haut du tableau, du coup, ça coûte beaucoup d'argent, qu'aujourd'hui, entre les dépenses et les recettes, il est obligé de remettre au pot chaque année, quand même 60 millions en 4 ans. Hein. Et pour mettre la pression, il prend l'exemple des clubs anglais qui ont fait faillite. Et il explique qu'il serait très compliqué de trouver une personne pour le remplacer actuellement. Allez, je t'en remets une couche. Alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, mais du coup, sur cette intro, on a bien senti qu'il voulait se positionner en homme fort, si ce n'est un peu en sauveur du club et qu'en gros, si on veut continuer à avoir un RCT compétitif en top 14, va falloir l'écouter et comme il le dit, lui faire confiance.
Et ouais, mais la situation, c'est lui qui l'a créé ça. Enfin, c'est lui qui crée cette situation-là, qui du coup le remet les sous dedans pour dire c'est moi qui vous sauve. Mais c'est en même temps, il creuse. Donc, c'est la situation à l'année où il est, c'est... Il en est responsable. C'est lui le président, il en est responsable. Parce qu'il s'est peut-être, il n'est pas responsable de toutes les actions, mais c'est lui qui s'est mal entouré dès le départ, qui a pris la mauvaise direction. Et ça, ils l'ont reconnu dans la conférence. Je trouve ça très classe de l'avoir souligné. Mais c'est quand même lui qui est la base. Donc, merci, monsieur le maître, de mettre de l'argent. Merci de réparer les bêtises que vous faites. Mais c'est lui. C'est lui.
Mais est-ce que tu penses que tout l'argent qu'il met, c'est uniquement pour réparer les bêtises? C'est vrai qu'un club de rugby maintenant. Enfin. Pas un club de rugby, un club de rugby avec l'ambition de rester dans le top 4, Gérald, ça coûte un pognon dingue. Donc on est obligé d'avoir des mecs comme ça qui s'investissent et qui
mettent Gérald, Mais ça se structure sur des années. Ça se structure, ça se fait. Ça prend le temps. Non, si les choses avaient été bien faites quand il a repris le club, là, en 2024, on devrait être bien. Mais on ne l'est pas.
Le souci, c'est que, en fait, moi, je comprends qu'il nous répète souvent qu'il met de l'argent. Moi, si je t'avoue que si je mets 60 millions dans un club, je vais être un peu tenté de le rappeler souvent quand même, tu vois. Parce que bon, tu vois, ça creuse un peu le truc. Maintenant, moi, je me dis tout le temps, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, on l'a dit et tout, comment ça se fait qu'on ait de tels déficits, quoi. Comment ça se fait qu'on soit à ce point... obligé d'attendre l'argent de le mettre à hauteur de 10-15 millions par an pour être à l'équilibre. Je ne comprends pas. J'ai pas l'impression qu'à Bordeaux ça se passe comme ça. Je suis désolé. Je n'ai pas l'impression qu'à La Rochelle ça se passe à ce point-là. Je suis désolé. Je trouve que c'est des sommes qui sont considérables. Je trouve qu'à un moment donné, il le dit lui-même. Hein. Moi, je sais pas. J'écoute. Il dit des choses. Il donne les réponses à notre problème. Il dit on a fait un plan. Et avant, on avait 6 millions, je crois que c'était ça, hein, c'était 6 millions de vente de maillots, et on est descendu à un moment donné à moins d'un million. Bon, ben, il y a un problème. Comment ça se fait que toi, avec tout ton armada de spécialistes et de professionnels dans tous les domaines que tu as embauchés au club, il le dit lui-même, on a besoin de gens dans la com, on a pris des gens pour vendre des places, on a pris des mecs un peu partout, ils viennent de grandes écoles et tout ça. Comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de ressources dans ce club? On est tombé à avant-dernier. Il le dit lui-même aussi. On est avant-dernier en termes de revenus au club. Avant-dernier du top 14. Toulon, avant-dernier du top 14 en termes de revenus. Est-ce qu'on se rend compte un peu de cette phrase? Cette phrase est folle, en fait. Ouais. Comment Toulon, on peut en arriver là? T'as aucune concurrence rugby.
Exactement.
Autour de toi, t'as aucune concurrence rugby. C'est le désert autour de toi. Comment tu peux arriver à un tel désamour avec ton public en arrivant avant-dernier? Ce n'est pas possible. C'est que c'est toi qui va dans la mauvaise direction. Tu donnes pas envie aux gens. Tu ne leur donnes pas envie. Je suis désolé. C'est votre problème, les gars. Arrêtez de nous parler tout le temps de l'argent que vous mettez et du monde qui travaille là-dedans. Moi, je suis pas comptable. Ce n'est pas mon problème. J'ai pas une tête de comptable. Moi, je suis supporter, moi, tu vois. Moi, je veux que mon club, il gagne, il me fasse vibrer et que j'ai l'impression qu'on respecte mon identité. L'identité de mon club. C'est ça que j'aime. Sa singularité, son identité, tout ce qui fait que ce soit Toulon. Je me fous réellement de l'argent que vous mettez, de tous vos projets qui partent dans tous les sens, qui donnent pas envie aux gens. C'est les chiffres qui vous le disent. Vous les donnez vous-même, les chiffres. Alors arrêtez de nous prendre la tête et faites en sorte que ça change. Mais arrêtez avec vos plans à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. On est des bâtisseurs. On a des plans et vous allez voir. Ouais, mais c'est bon, des plans.
Des plans, il y a un Olivier.
C'est incroyable.
Ouais, je voulais rajouter sur les déficits, on a quand même quelques indices, notamment le projet d'NFT. Le Web3, qui a dû susciter pas mal d'argent pour payer les personnes qui sont occupées. Il y a aussi le niveau de la boutique qui a ouvert une nouvelle boutique à Mayol, enfin au stade.
Oui.
Elle n'a pas été ouverte là par hasard, hein, parce que j'ai appris que la boutique qui est au centre commercial Mayol va fermer pour laisser ouvrir. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de payer un loyer là-bas, qui sont obligés de faire une boutique là. Il y a aussi les prix dans les boutiques qui sont astronomiques. Bon, ça, après, c'est pas trop de leur faute, c'est l'équipementier qui fixe des prix pour les ventes des maillots, etc. Mais on a beaucoup d'indices sur pourquoi.
Ouais. Oui, bien sûr qu'on a plein d'indices sur pourquoi. On a plein de choses. On voit bien qu'on a beaucoup plus de dépenses qu'avant. On le sent, on le voit bien dans tous les gens qui travaillent au club aujourd'hui, dans tout ce qui se passe. On voit bien qu'ils cherchent à faire des revenus. Tu vois, le campus...
C'était justement la première question. La première question, je trouve que ça a été la meilleure question en fait, qui a été posée, la plus importante. La première, c'est quel est le plan justement pour équilibrer ses comptes et pour augmenter les recettes ? Parce qu'il n'est pas bigleux, il le voit bien lui aussi. Qu'il est obligé, enfin, il le voit, évidemment qu'il le voit puisqu'il paye. Donc, il le sait bien qu'il doit augmenter les recettes. Et on lui a...
La
question, c'est quel est ce plan pour augmenter les recettes. Donc, et ça, il marchait sur des...
Et lui, qu'est-ce qu'il répond ? Il te dit que pour augmenter les recettes, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait plus de dépenses parce qu'on a embauché des gens pour pouvoir avoir plus de revenus. On a pris de la compétence, on a pris des mecs à tel poste, à tel poste. Mais bon, c'est vrai qu'on a fait un plan sur 3 ans. Bon, la première année, je suis un peu déçu parce que bon, ben, il n'y a pas beaucoup d'avancées par rapport aux autres années. Mais ça va le faire. Donc, en fait, on est en train de te dire quand même que... On a créé des postes dans ce club, on a fait des CDI dans ce club avec quand même des salaires qui doivent être confortables. Pourquoi en fait ? Pour qu'on ait les mêmes chiffres qu'avant et qu'on n'ait pas plus de revenus. C'est ça le problème, il est structurel. On continue à faire des dépenses et des dépenses et des dépenses, et des dépenses à long terme, hein, c'est des CDI, hein, c'est pas des one-shot sur 6 mois. Hein.
On parle
c'est,
de dépenses,
c'est structurellement, même... on a des dépenses importantes.
Tu parles de dépenses, mais pas d'investissement. C'est ça. Enfin, je trouve que le terme dépense est parfaitement choisi. C'est de la dépense, c'est pas de l'investissement. C'est pour l'instant, on fait que perdre des thunes.
Et même cet argent-là, l'argent qu'il dépense, même qu'il ne le dépensait pas, ça arrangerait pas les problèmes. Hein. Parce que quand tu as un écart de 6 millions rien que sur le merchandising à combler, c'est pas parce que tu payes 3 CDI ou que tu les payes pas que ça va faire la différence.
La seule vérité, c'est... Vas-y, termine, pardon, Mathieu.
Alors, juste pour terminer sur ce qu'il disait, lui, c'est que, évidemment, lui, son plan, c'est de démarrer par améliorer la vente de billets et d'abonnements. Ça, c'est le premier point, parce qu'à partir de cet engouement, eh ben, forcément, tu peux avoir une hausse des contrats de sponsoring. Évidemment, si tu as une base de supporters qui achètent des billets, qui s'abonnent, t'as de la vente de produits dérivés. Ils comptent aussi beaucoup sur le campus du RCT, les salles de séminaire, la brasserie et une éventuelle création de fan zone qui compte mettre en place d'ici peut-être la saison prochaine. Tout ça, il le crée les outils pour avoir des revenus. Enfin, son objectif d'avoir...
C'est ça. Mais j'entends, ça, c'est de l'investissement. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il te dit lui-même que la première année, l'année donc là, il dit... Ben en fait, cette année, je suis déçu parce que en fait, on n'aura pas d'avancée par rapport à l'année dernière, alors que les outils, il les a créés, qu'il a mis des gens en place pour avancer, pour faire plus de recettes. C'est de l'investissement. Là, on parle de dépenses. Oui. Je suis pas d'accord, Oli. C'est de l'investissement à partir du moment où tu crées des salaires avec des gens en disant, ben, tu vois, votre boulot à vous, c'est de nous faire gagner de l'argent maintenant. T'investis dans des gens, dans des gars, dans des bureaux et tout pour que les gars réfléchissent et c'est leur taf.
En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir.
Ça marche pas aujourd'hui.
La seule vérité d'un club sportif, c'est les résultats terrain. C'est tout. Pour moi, tant que le sportif ne va pas, le reste n'ira pas. Et à partir du moment où on va recréer...
Là-dessus, il n'est pas d'accord. Et moi, on est...
Je ne suis pas d'accord, moi. Un club, même si tu perds, eh ben, si tu es supporter et que ton club, il te ressemble et que tout est OK, eh ben, tu vas continuer quand même à aller au stade. Tu vas quand même vouloir acheter le maillot au début de l'année. Tu vas vouloir faire des dépenses.
Et ça concerne combien de personnes, ça, surtout ? C'était pas les 20 000 personnes de l'époque Boudjelal. On est beaucoup moins que ça.
Si ces gens-là, tu les as fidélisés, si ces gens-là, leur club leur ressemble, si c'est OK, sauf qu'aujourd'hui, ton club, ces gens-là considèrent que Toulon ne leur ressemble plus, le RCT ne ressemble plus à l'image à l'image dont ils se font du club. Nous, notre singularité vient d'un différent critères qui sont importants pour nous. Tu vois, mais si tu commences à dire, on va enlever ci, on va enlever ça, et puis ça, on va lisser un petit peu, et puis ça, on va essayer de sentir un peu moins mauvais, de se faire un peu plus aimer partout, avoir une image un peu plus lisse et tout ça, et à un moment donné, ça ressemble pas au Toulonnais. Et le stade se vide de gens qui, je suis désolé, étaient prêts avant à mettre une partie de leur salaire dans le club. Et ils le font plus.
Après, ouais. Après moi, sur vos prises de décision, je suis plutôt 50-50 pardon, sur vous deux. Parce que, oui, un supporter, il doit aller au stade. Mais ceux qui vont pas au stade, c'est pas des mauvais supporters pour le coup. Quand quelqu'un qui va à la boutique du RCT et qui a un maillot, que forcément il est en promo ou quoi, mais il a pas forcément envie de l'acheter si c'est une mauvaise saison, c'est oui, Oli, tu as raison sur la partie des résultats. Mais ça dépend, en fait, ça dépend sur certaines choses.
Et lui, ce qu'il essaye de créer, et qu'il a dit, et que moi je crois aussi, c'est que quand tu crées tes salles de séminaire, ta brasserie, la brasserie, tu y vas pour bouffer, que RCT, il se passe sur une mauvaise série ou quoi, une bonne série, tu gagneras des sous quoi qu'il arrive.
Les ouais, mais t'as plus envie d'aller dans un restaurant d'une équipe qui gagne que d'une équipe qui perd. T'as plus envie de t'identifier à l'équipe qui gagne.
Pour la plupart des gens. Franchement, vu les personnes qui vont. Des grosses différences avec les résultats, là, franchement.
Mais vu les personnes qui vont dans le
match, peut-être pas pour nous, mais je pense sincèrement que la plupart des gens, oui, mais on est combien? C'est combien? On en parlait l'autre jour quand les gars allaient voir les stades, les matchs, pardon, en Pro D2, à l'époque, avant Boudjelal. Il n'y avait pas grand monde dans le stade. Il y a eu du monde qui est revenu quand la première année le RCT est remonté en top 14 avec Aubin Weber, tout ça. C'est les résultats qui font. Qui pour mais moi, ouais, les résultats, c'est la base.
Il y a eu un classement, là, il y a eu le classement sur la journée précédente sur les influences en top 14, où est-ce qu'on était dans la moyenne. Je crois qu'on est 8e ou 9e, je crois.
Oui, on est 8e.
En moyenne, on est 8e. Ceux qui sont là-haut, là, c'est pas forcément des clubs qui gagnent, hein, tu vois. Perpignan, c'est plein tout le temps, ça va rester plein tout le temps. Bayonne, c'est plein, et pourtant, c'est pas une équipe qui joue le top 6 et qui gagne machin. Quand ton club, il reste fidèle à ton identité, quand ça continue à être ce que les gens ont envie que ce soit Toulon, tu vois. Moi, j'en ai plein le cul d'entendre Doumerou, par exemple, qui arrive chez nous la semaine dernière et qui dit Toulon, c'est plus comme avant.
Ah, les gars, mais
je sais qu'il a un peu raison, mais ça me bouffe en fait. Je me dis, mais putain, et lui, il ouvre son cul, il nous dit que c'est plus comme avant, il fait le malin, alors il en a pris 50, tu vois. Karma, quoi. Mais merde, il a un peu raison, quoi. Les mecs, ils viennent chez nous, ils se disent, ouais, bon, bah, c'est un club, c'est un stade comme un autre, hein, ça va en fait.
Ça on va en parler. Bien, quoi, tu vois. On va en parler un peu après, les gars, mais j'ai pas forcément une bonne nouvelle là-dessus. Ouais, Oli.
Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Je sais pas si vous savez sur le nombre de partenaires qu'il y a au club. Si c'est en augmentation, ça stagne, ça baisse, ça investit plus.
J'ai pas de chiffre là-dessus.
Que ouais, je suis pas. Assez...
Je sais qu'il y a un moment, il y avait beaucoup avec Mourad qui avait développé tout ça. Avec énormément de partenaires différents. Il avait 600 et quelques à un moment donné. C'était fondamental. C'était énormissime.
Ah, c'est la base. Hein.
Je sais pas.
C'est où on en est. C'est là que tu gagnes plus d'argent au partenariat qu'en billetterie. Hein. Un billet partenaire.
Oui, non, mais ça.
Facilement, le sponsoring, je sais pas évidemment, où. C'est un truc très important.
Alors, faisais la réflexion parce que j'étais à Toulon ce week-end et justement, je voyais moins d'autocollants partenaires du RCT saison 23-24 que ce que j'ai pu voir les années précédentes.
Vu que les résultats ont baissé, ça a dû un petit peu baisser.
Ah, les résultats. Voilà.
Non, mais non.
Ah,
mais
non, non. Ça suffit. Juste, non, j'ai compris. Mais pour moi, c'était pas
juste. Je sais. Les résultats. Non, mais après, c'est mon point de vue. Mais après, tu as peut-être raison. Il y a sûrement plein de gens qui sont d'accord avec ça. De toute façon, on n'a pas de vérité, tu vois. Juste un truc sur cette réunion. Je voudrais juste qu'on passe un petit coucou à un mec qui s'appelle Elias. Et c'est grâce à lui qu'on va avoir Pierre Mignoni au Causerie. Tu l'as dit au fait qu'il y avait Pierre Mignoni au Causerie de la Rade cette semaine, Mathieu, ou pas? Tu l'as dit ou pas?
Je n'ai pas dit qu'il y avait.
Vas-y, retis-le au cas où.
Jeudi 4 avril. Je crois que je l'ai pas dit.
Jeudi 4 avril. Alors, si tu l'as pas dit, je le dis. Et c'est Elias qui a fait la proposition à Pierre Mignoni à la Réunion. Elias, il n'est pas parti des Causeries. Hein. C'est un auditeur qui écoute l'émission. Et c'est grâce à lui, sur l'invitation, Pierre Mignoni qui a donné son numéro de téléphone en direct. Oh, c'était pas en direct parce que c'était pas diffusé, mais il a donné son numéro de téléphone. J'ai trouvé la séquence incroyable et je voudrais remercier, il faudrait que tous les Causeries remercient Elias parce que.
On
remercie Elias et voilà, vous voyez la méthode. Si vous voulez inviter des gens aux Causeries de la Rade, et ben vous
envoyez Elias.
Vous les envoyez direct, vous n'en avez pas. Le numéro et on gère la suite.
Il faut toujours avoir un Elias dans sa poche, que tu sors comme ça et tu dis oh.
Exactement.
Et puis c'est parfait. Très bien.
Et il y a d'autres petits sujets qu'il a abordés, notamment le sujet, un sujet très important aux yeux des supporters, c'est la formation. Alors, et ça, c'est quand même un sujet où il a dû batailler, parce qu'il est quand même très attaqué sur les réseaux sociaux pour de nombreuses raisons, notamment la 14e place au classement des centres de formation, l'annonce récente du départ de Bruce Devaux, tout comme ceux de Lebrun, Verdeux, Bello, Carbonel, Van de Verber, on ne va pas faire la liste. la création d'une brasserie à la place d'un centre d'hébergement pour les jeunes du centre de formation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il vous a convaincu, Bernard Lemaitre, dans sa volonté de ramener le club au plus haut niveau de ce point de vue-là ?
Alors moi, je trouve que le recrutement de l'entraîneur des Espoirs, Cédric Béal, est déjà un très bon signe. C'est parce que les 5 adores, c'est un très bon entraîneur. Donc je pense qu'il a quand même cette volonté-là, mais je pense qu'il s'y prend mal, encore une fois. Qu'il essaye de faire de l'investissement sur des jeunes joueurs, mais je doute vraiment de sa volonté de les garder, de les intégrer ensuite à l'équipe.
Bah, il dit ça toujours la même chose, hein. Il dit toujours la même chose. Il investit peut-être, mais derrière, ça ne suit pas. Parce que ça, soit ça le vend, soit ça les met en prêt, soit ça les fait pas jouer, soit ça les reste en espoir. Jamais ça va les faire jouer en pro. Alors que l'objectif de faire jouer de les recruter, c'est pour les faire jouer en pro, les faire développer encore plus, pour pouvoir les garder, de faire un peu des économies aussi autour, de pas aller chercher des grosses stars derrière pour les épauler ou quoi. C'est pour moi, c'est
ouais, mais attends, Oli, quand même, cette année et depuis maintenant 2 ans, là, on a quand même pas mal de jeunes qui jouent quand même. On les voit en équipe première, nos jeunes. Enfin, tu vois, là, ces derniers temps, on en voit quand même pas mal, quoi.
Ouais, on en voit plus. Mais est-ce que c'était vrai projet ou est-ce que c'est par besoin qu'on les voit ?
Comment ça, par besoin ?
Par besoin de vie.
C'est-à-dire ?
Ben, je sais pas.
Ben non, mais c'est pas. Ben non, ben après, t'as les gifs, le fonctionnement, il est comme ça maintenant. Donc les types, on a un centre de formation et quand les mecs sont prêts et s'ils sont assez bons, parce que ton centre de formation, tu feras jamais un perfect, et t'auras toujours des mecs qui vont partir et qui vont aller dans d'autres clubs moins UP que le nôtre ou même carrément en pro D2, mais tu les as formés, mais parce qu'ils sont pas prêts pour jouer dans l'équipe 1 de Toulon qui veut être dans le top 6. Et c'est normal, tout le monde peut pas arriver à ce niveau, mais je trouve que quand même on en a de plus en plus. Alors là, bon, on a eu Deveau, mais Deveau, il part, il a 27 piges, hein. Enfin, tu vois,
oui,
c'est pas, on laisse pas partir.
Ben, bien sûr.
Et le mec, il a le droit de vouloir changer de club à un moment donné, d'aller voir ailleurs. Moi, le seul truc avec Deveau, juste une parenthèse, après on repart sur le centre de formation. Le seul truc avec Deveau, je comprends pas dans le calendrier qu'on nous a donné, c'est que le 12 décembre, Deveau, il dit c'est OK. Il change d'avis au mois de mars. Pourquoi, si c'est OK au 12 décembre, il signe pas son contrat? Pourquoi, en fait, il y a 3 mois où il n'y a pas de signature au contrat? Parce que s'il signe, si c'est OK et que tout le monde est d'accord, signe.
Mmh. Ouais.
Et il ne change pas d'avis au mois de mars. On signe, on blinde, il est d'accord, on signe. En fait, là, je ne comprends pas pourquoi Deveau, quand il dit « moi, je me suis mis d'accord le 12 décembre, je l'annonce et c'est OK. » Mais bon, après, Azema, il m'appelle au mois de mars et puis je change d'avis et puis je décide d'aller là-bas. Parce que je vais avoir plus de temps de jeu et puis là, il y a 3 mois où je sais pas pourquoi on fait pas signer ce gars-là.
Il y a un petit flou là-dessus. Peut-être qu'on aura une réponse le jeudi 4 avril.
Qu'est-ce qu'il y a le jeudi 4 avril ?
Mais je crois qu'il y a les causeries de la rate qui accueillent Pierre Mignoni.
Ah, d'accord.
Énorme.
On va pouvoir parler du centre de formation.
on les laissera parler du centre de formation. Ils en parleront avec Pierre Mignoni. Je pense qu'il aura plein de choses à dire.
Ouais.
Donc, il faut qu'on avance un petit peu, surtout que. Le point d'orgue de cette réunion qui intéressait tous les pseudo-supporters, c'est quand, évidemment, ils ont évoqué la lettre ouverte, ainsi que la vidéo d'Eric découpant sa carte d'abonnement. Et là, déception les gars, mais la réponse de Lemaitre a été cinglante. Tout est faux, c'est une lettre anonyme, elle est insultante. Alors ça, par contre, je sais pas où il a inventé, elle est pas insultante. Personne ici pour en discuter, c'est une minorité. Pour moi, cette non-réponse, le divorce avec les pseudo-supporters, il est consommé. Il n'y aura pas de pas vers eux. Gérald, je ne sais pas ce que tu as pensé de cette séquence, mais...
Cette séquence, elle est drama parce qu'en plus, il met les ricaneurs dans son camp là, en disant il a recollé depuis. T'as les fanzous là, qui rigolent sur le côté et tout. Vraiment, c'est pas très... J'ai trouvé la séquence un peu malaisante, même complètement malaisante. Mais elle est aussi provoquée par le fait que, il n'y a personne de la lettre et il n'y a personne qui est dans la salle. Parce que s'il y a des gens qui se lèvent et qui disent « non, mais nous, on est là, nous. » Et puis la lettre, nous, on est OK avec ça. Sauf que il fanfaronne un peu en disant « là, ils ne sont pas là. Moi, j'ai fait ça pour qu'ils viennent, parce qu'on parle, parce que je veux les rencontrer. » Mais ils ne viennent pas. On ne sait pas qui c'est, ils ne viennent pas. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire comme truc?
Fais une réunion un samedi à une autre heure, si tu veux qu'il y ait du monde qui vienne.
Il serait pas venu quand même, Oli. Il serait pas venu. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'ils sont pas là. C'est pas pour ça qu'ils sont pas là. Ils sont pas là parce qu'ils n'avaient pas. Mais non, mais c'est pas que ça. C'est philosophique, le truc.
Non,
je pose pas un jour de congé, mais je pense que dans le lot, il peut y avoir des mecs quand même. Je sais qu'au début, il y a des mecs qui sont chauffés pour y aller. Et puis après, au fur et à mesure de quelques jours et tout, il y en a qui ont abandonné l'idée parce que, pareil, ils se sont dit, mais comme on l'a dit la semaine dernière, comme le défendaient Bastien, Aurélien et Pascal, c'est couru d'avance, ils pourront rien dire, ils vont se retrouver en phase 2 avec plein de mecs et puis ils pourront pas parler. Alors, c'est pas une question de qui a raison, qui a tort, hein, mais le fait de pas être venu, ça donne ce genre de séquence et ça donne la certitude à le maître que, en fait, c'est une minorité et ces gens, on sait pas qui c'est et puis ils comptent pas parce que les vrais supporters, ils sont dans la salle et eux, quand je fais une blague comme ça, ils sont tous en train de rigoler et les questions, on me dit que je suis formidable.
Ouais,
c'est perdu en fait. C'est perdu.
Mais j'ai un autre.
C'est une occasion perdue.
Ouais. Attends, d'abord Olivier. Vas-y Olivier.
Après, sur cette lettre, elle a été faite anonymement parce que, comme sur le tweet, ça a été dit, c'est pour que tous les Toulonnais qui se rallient, qui s'attachent à cette lettre, qui pensent pareil, c'est pour qu'ils la partagent.
Puis ils le savent très bien qui a partagé la lettre, hein, qui a liké ou quoi, donc anonymement. Oui.
Ils ont juste
moi, j'ai liké, je l'ai partagé. Salut, je m'appelle Olivier, j'habite à Nîmes. Voilà, ça y est, voilà. Vous savez.
Les gars, j'ai un autre point de vue sur la question, c'est que moi, le maître, il est pas là à se poser la question. Est-ce que ces gens représentent du monde ou représentent pas du monde ou quoi? Il sait que ces gens-là représentent du monde. La lettre, elle a été relayée un paquet de fois dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il le sait. Il tente l'esbrouf en disant qu'ils sont une minorité parce qu'il n'a pas le choix, mais il sait très bien que ces gens-là, ils sont nombreux, mais malheureusement, lui, il s'est fait son idée et il ne se ralliera pas au pseudo.
Oui, mais après, tu sais bien que tout ça, c'était un exercice de com et que dans l'exercice de com, cette séquence-là, il l'a gagnée. C'est comme ça, parce que quand la vidéo elle tombe et que tout le monde voit ça, les gens qui sont un peu lambda ou qui sont un peu neutres et qui savent pas et tout, eux, ce qu'ils voient, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire lui qui dit, en fait, ils sont où? Moi, je voulais faire cette réunion pour qu'ils soient là et ils sont pas là.
Mais
et
gagner,
puis t'as la moitié de la salle qui rigole. Eh ben voilà, c'est en fait la séquence de com, cette séquence-là, là, je suis désolé, mais... Il a les rieurs de son côté, il a la salle pour lui, et puis les mecs, il n'y a personne en face pour lui dire « Mais non, on n'est pas d'accord, en fait. » Il y a ça et ça.
Mais
le problème, c'est que dans cette com-là, il l'a gagné. Alors, je ne te dis pas que, tu vois, c'est glorieux. Hein. Ce n'est pas du tout glorieux. Mais ce truc-là, c'est regrettable. Hein. Moi, après, ça m'a foutu les boules. Moi, quand j'ai entendu les mecs rigoler, ça m'a… Je fais « Putain, mais les gars, quoi, quand même, quoi. » Tu vois.
Creuser un peu plus et se dire que les contestataires, bref, n'étaient pas là parce qu'ils savaient très bien que ça pouvait mener à rien et que les réponses, leurs questions seraient élucidées, seraient moquées et répondues en deux mots comme ça a été le cas aussi. Ils ont vu venir le truc à tort ou à raison.
C'est pas un combat politique. Il n'y a pas d'opposition à Bernard Lemaître de toute façon. Donc que la séquence soit bonne, pas bonne, c'est pas grave. Bernard Lemaître, pour lui, les pseudo-supporters, il sait très bien qui c'est. Il sait qu'il y en a beaucoup, mais il ne représente plus. Enfin, les pseudo-supporters ne se retrouvent plus dans les valeurs que représente le club. On est d'accord, tout le monde l'a dit, cette singularité et tout ça. Mais lui, Bernard Lemaître, il estime que la mue du RCT. En mode feel good et tout ça, c'est pas négociable. Le maître, il a besoin de rendre le RCT bankable. Et pour le rendre bankable, il a besoin de lisser les valeurs. Avant Toulon, c'était Toulon, tout est différent. C'est terminé ça. Avant Toulon, le rugby rugueux, le langage fleuri dans les tribunes, les bagarres, les traditions, la Provence, le côté un peu voyou, c'est fini tout ça. Lui, il veut se diriger vers des valeurs un peu plus universelles, tu vois, la fête, l'amitié, les performances et tout ça, des trucs pour attirer un public plus large et pour pouvoir avoir plus de recettes.
Ça peut marcher pour un club qui se crée, qui veut surfer sur l'engouement Coupe du Monde. Mais nous, on n'avait pas besoin de surfer sur l'engouement Coupe du Monde. Il était déjà l'engouement.
Les fidèles comme nous qui pensent comme ça, ça représente pas assez d'argent. Il faut n'y a pas le choix. Il faut aller ratisser plus large. Donc, ça se fait aux dépens des fidèles. De toute façon, les fidèles, on n'achète pas assez de trucs et tout. Il faudra, c'est vital pour l'économie du club. Donc, il se dit, écoute, ceux-là, tant pis. Je leur parle pas. Je parle au nouveau, je lisse le RCT. Comme ça, je peux avoir les jeunes. Les jeunes, les enfants, c'est les plus gros consommateurs de produits dérivés. Et Banco, il n'a pas le choix, il le fait. Peut-être qu'il le fait à contre-cœur, mais je pense que c'est par besoin économique qu'il prend cette direction, quoi.
Ah ben, pour l'instant, il prend la mauvaise direction, à mon sens, et les résultats le prouvent.
L'avenir nous le dira.
Mais j'espère me tromper. Hein.
Comment ? T'as dit quoi, Gérald ?
Il se marre.
Ouais, j'ai pas compris.
Il rajoutera 10 millions.
Ah, bah ouais, c'est ça.
Ah, mais juste pour terminer, quand t'as une lettre comme ça, ou tes clients, quand t'es un chef d'entreprise, tu vends un service, un produit, pour avoir ce genre de retour comme la lettre qu'il y a, qui t'explique ce qu'il faudrait améliorer, ce que t'aimes pas et tout ça. Normalement, une société, elle paye d'un service des agences de marketing qui te font payer une blinde. Là, la lettre, elle arrive sur un plateau d'argent où tes clients, ils te disent « Voilà, j'aime pas trop ça, il faudrait peut-être faire ci, faire comme ci, comme ça. » Et le maître, il dit « Je m'en fous, c'est faux. » Et d'où c'est faux ? Donc, je veux dire, partant de là, c'est que les pseudo-supporters, basta, c'est terminé. Hein. Il n'y aura pas de pas vers eux.
Tant pis.
Ouais, non, mais en plus, moi, je trouve que, en fait, là, juste en clôture, parce que c'est vrai qu'après, commencer la réunion en disant qu'on va nous préciser des actions du club et qu'il y a de la désinformation et de la méconnaissance de la part des supporters, vraiment, c'est faux. Parce
c'est
que
de la mauvaise foi, bien heures, sûr que c'est faux, bien sûr que c'est
heures,
faux.
Deux heures après de réunion, j'ai eu la confirmation que j'avais bien compris toutes les actions du club, en fait. Il n'y avait rien qui m'avait vraiment échappé. Et deux heures après, je suis toujours pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais je le savais avant et j'ai rien appris pendant les deux heures. Et penser que c'est de la méconnaissance et qu'on comprend pas et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, c'est quand même on n'est pas des enfants, quoi, tu vois. Faut pas nous infantiliser comme ça, quoi. On a compris bien, en fait. Ouais. On avait tout était très clair. Et juste qu'on les gens sont pas d'accord. Donc avec un certain nombre de choses. Et on parle pas de sportif encore une fois. Le sportif est pas le problème là-dedans. Faut arrêter avec mais on gagne on perd. C'est pas une question de on gagne on perd les gars. C'est la direction du club.
Si tu veux capter de nouveaux supporters un peu plus loin, les mecs ils vont voir le résultat. Ils vont plutôt supporter une équipe qui gagne qui perd.
Là je te parle du mécontentement qui naît de la lettre, le mécontentement qui naît de ce qui s'est passé sur les 10 derniers jours n'a rien à voir avec le fait qu'on gagne ou qu'on perde.
Non,
ça, les gens sont pas énervés parce qu'on a perdu contre Pau, contre Castres ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun rapport. C'est la direction du club et tout ça. Et cette réunion nous a pas éclairé sur des trucs qu'on s'est dit ah d'accord ok on n'avait pas compris merde. Ah,
figure-toi que le 4 avril il y a Pierre Mignoni qui vient dans les causeries et peut-être qu'il va éclairer certains trucs.
Il va rien éclairer.
Mais il va rien éclairer parce que c'est pas le problème et c'est pas lui le souci. C'est pas ce dont il s'occupe. Vraiment.
Non, mais c'est vraiment pas le problème. Il répondra pas. C'est un passage en force. Le RCT va changer, va effectuer sa mue. Et c'est ça. Et c'est pour moi, c'est ça que j'ai compris. Tu vois, c'est clair. Bon, je crois qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin là-dedans. De toute façon, on n'est pas dans la tête de Bernard Lemaitre. Peut-être qu'il fera d'autres réunions. Olive, est-ce que tu as le temps de nous faire la petite série sur les jeunes? Et je crois qu'ils ont joué ce week-end.
Ouais, je peux vous faire ça, ouais.
Ah, vas-y, tu veux que je lance un jingle?
Ah, comme tu veux. Comme t'as
envie. Ouais, le jingle.
Criminaux de la rade.
Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que notre. Bon, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce serait encore vivre. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
Alors, je vais commencer de suite les espoirs retrouvés face à Oyonnax à domicile et qui ont gagné sur un score de 10 à 8. Au classement, ils sont 7e avec 26 points, à 1 point derrière Oyonnax. Et le prochain match, ce sera à Narbonne, le 7 avril à 16h. Ensuite, les Crabos et les Alamerceries, qui ont fini leur première phase de championnat. Ils sont qualifiés les deux en poule haute, et qui affronteront les deux, Castres, en même temps, le même jour, le 13 avril à 16h pour les Crabos, et 14h30 pour les Alamerceries à l'extérieur. Ensuite, les Godermen qui affronteront qui ont affronté pardon, le 15 Dauphinois qui ont gagné sur le score de 29-17. Et ils affronteront la Hoyosphère le 6 avril à 14h30 à l'extérieur. Ensuite, le Super Challenge, c'est toujours le 4 et 5 mai 2024 à Valence. Et ils sont dans la poule de Valence Romand et de Vincennes. Et on termine par les féminines qui ont affronté l'USAP et qui ont gagné sur le score de 5 à 10. Au classement, elles sont 3e avec 56 points. Et elles affronteront à domicile le 5 mai à 15h l'USA Limoges. Voilà, c'était tout.
Oh, super. Bon ben, écoute, c'est génial. Pas de blague à faire sur le 15 Dauphinois.
Merci Olive.
Comme ça, non.
Non,
c'est bon.
Ok, c'est bon. Non.
Gratin savoyard, quelque chose comme ça, non.
Non, c'est bon. Laisse une semaine. Bon les gars, et eh ben écoutez,
pas de jeu de mots.
On fait des bisous à tout le monde. On rappelle encore une fois, n'oubliez pas, jeudi, soyez présents. Jeudi 4, Pierre Mignoni sera là et répondra peut-être aux questions qu'on s'est posées aujourd'hui. On vous fait des gros bisous et portez-vous bien et allez Toulon.
Et allez Toulon.
Allez Toulon.
Salut tout le monde.
Lui Carbonel revient. C'est bien. Carbonel.